Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Laporte, venu nous présenter son roman Une fleur au cœur d'or, publié aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Rappelons que Gilles Laporte est membre titulaire de l'Académie de Stanislas, chevalier dans l'Ordre national des arts et des lettres et chevalier dans l'Ordre national du mérite agricole. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Le Duomo de Florence en duo avec Gilles Laporte. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Mona.
Bonjour.
Alors Gilles, dans votre roman Une fleur au cœur d'or, sorti fin août 2023, vous mettez à l'honneur l'horticulture à l'aube du XXe siècle avec l'histoire de Petit Louis. Racontez-nous.
Je vous raconte tout.
Bah, une partie, pas tout.
Oui, ça démarre au 19e siècle. Ben, je me suis rendu compte, lors de mes rencontres, recherches, que la belle aventure de l'horticulture lorraine de la fin du 19e et du début 20e siècle est complètement ignorée. Que celui qui en a été le champion, Victor Lemoine, bon, a un petit buste dans le parc Sainte-Marie à Nancy, oui. Et une petite rue quelque part en banlieue nancéenne, mais pas davantage. Or, Victor Lemoine est encore considéré aujourd'hui comme l'horticulteur le plus génial du monde et de tous les temps. Mm-hmm. Donc c'est une qualité remarquable, celle-là, que celle de Victor Lemoine, qui méritait d'être mise en valeur. Et puis, il n'a pas été seulement celui qui a réussi personnellement pendant cette période-là, à côté des artistes de l'école de Nancy, par exemple, des Galets, Dôme et autres. Non, il a fait des petits, si j'ose dire, notamment dans le domaine végétal, bien évidemment, parce qu'il a créé beaucoup de nouvelles espèces, mais il a aussi créer un esprit qui a donné naissance à, aujourd'hui, dans l'esprit, l'école d'horticulture de Revillochaine, d'horticulture et de paysage. Donc il y a vraiment une suite à cette belle aventure qui se développe encore au début du XXIe siècle et qui n'a pas près de finir de se développer, parce que l'école d'horticulture de Revillochaine, elle accueille plus de 1000 élèves par an et qui viennent de Ropentière. C'est-à-dire le rayonnement, aujourd'hui encore, de cette horticulture lorraine.
Oui, bien sûr, et on en voit tous les ans la preuve avec les jardins Place Stanislas.
Par exemple. Mm-hmm. Mais je regrette que quand il y a cette magnifique exposition Horticole Plastane, on ne rappelle pas qu'on doit tout ça à Victor Lemoine.
Quand même. C'est vrai.
Et à la Société d'horticulture lorraine qu'il a créée, lui, au milieu du 19e siècle.
Mm-hmm. Donc votre livre, c'est un hommage déguisé. Pas déguisé d'ailleurs.
Pas déguisé du tout, c'est un hommage
appuyé.
Très appuyé à Victor Lemoine et à tous ceux qui l'ont accompagné. Et j'en ai fait un roman parce que je veux mettre cette belle aventure lorraine, cette belle dynamique lorraine à la portée du plus grand nombre. Et il n'y a pas d'autre moyen que le roman pour inviter à pénétrer l'histoire quand même.
Alors, Petit Louis, c'est un petit garçon qui naît difforme.
Oui, on est à la toute fin de la guerre de 70, sa mère accouche, son père, il ne le connaîtra pas, il a été envoyé sur le front. La défaite a été telle que l'armée française a été écrabouillée en quelques semaines par l'armée allemande, Gravelotte et compagnie. Et lui, le père, était sur le front du côté de Rambervillers, non pas de Lise, et il en est parvenu, il a disparu, on n'a jamais rien retrouvé de lui.
Oui, c'est ça.
Or, son épouse était enceinte et est née de cette grossesse, un petit garçon, Petit Louis, dans des conditions difficiles. Il faut dire que certainement que le physique de sa mère y était pour quelque chose, mais aussi la psychologie de sa mère, qui était complètement perturbée, anéantie par la disparition de son mari. Elle a accouché dans de très très mauvaises conditions. Et des conditions qui ont fait que le petit gamin, notre Petit Louis, il va naître handicapé.
Oui. En même temps, les forceps à l'époque, c'était pas...
Oui, c'était plus du massacre que de la
que de
l'aide à naître.
Oui. Alors, Flavie a beaucoup de courage quand même. C'est une femme qui est très, très courageuse.
Bah, elle est comme la plupart des héroïnes de mes romans.
Oui, une beau personnage de femme.
Il y a plusieurs fils conducteurs dans mon travail d'auteur. Il y en a au moins trois. Il y a l'école à laquelle je dois tout, bien sûr. Sans l'école de la République, je ne serais pas là avec des livres. Je serais ouvrier de filature, au chômage, parce que maintenant, il n'y a plus de textile en Lorraine. Mm-hmm. Deuxième fil conducteur, c'est le patrimoine. On vient de l'évoquer un peu. Tout ce qui permet de se remémorer ce que nous étions hier, ce que nous sommes encore aujourd'hui, et ce que nous pourrions être encore davantage demain, en connaissant notre histoire et en honorant nos racines au quotidien. Et puis le troisième fil rouge, c'est la place de la femme dans la société. Je ne supporte pas les injustices, aucune injustice, et aujourd'hui, Dieu sait s'il y en a à combattre, mais celle-là pire que toutes les autres, parce que depuis que le monde est monde, la femme est considérée comme... Je cherche les mots, à peine comme un être humain.
C'est un objet.
Il y en a encore qui doutent qu'elle ait une âme.
Oui, bien sûr. Mais je trouve que ça s'aggrave même. Il y a eu un moment où c'était un peu plus...
Parfaitement d'accord avec vous, chère Mona. Je crois que beaucoup ignorent ou veulent ignorer l'évolution actuelle qui est une régression par rapport aux avancées qu'on a connues à la fin du 19e, au début du 20e siècle, notamment dans l'entre-deux-guerres, où les femmes se sont complètement libérées. Libérées parce qu'elles ont pris conscience de la place qu'elles tenait dans notre société, parce que entre 1916 et 18, elles ont fait le boulot des hommes, en plus de leur boulot à elles. Certains hommes disent, historiens entre guillemets, disent les femmes se sont mises au travail pendant la Première Guerre mondiale, nom d'un chien, elles ont fait le leur, qu'elles ont continué à assumer, et en plus elles ont fait celui des hommes, elles ont fait double, triple journée les femmes. Et là elles se sont dit, mais enfin, nom d'un chien, on a une puissance de travail, une puissance de réflexion citoyenne, on va devoir en tenir compte. Donc tout ça a été une évolution considérable au début du XXe siècle et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et on est en train de, mesdames, vous êtes en train de reperdre en grande partie ce qui a été gagné.
Bien sûr, je suis d'accord.
Pauvre Mona.
Oui, c'est vrai.
Non, mais on la protège, Mona.
D'accord.
Alors, Flavie ne s'est jamais remise de la disparition de son mari. Bon, c'est très difficile en même temps de ne pas savoir ce qu'est devenu Hippolyte. Le fait de ne pas savoir quand on n'a pas récupéré le corps, c'est d'autant plus difficile de faire son deuil.
Bien sûr.
Et elle n'a pas réussi non plus à surmonter la culpabilité d'avoir mis au monde un enfant infirme.
Ben oui, parce qu'elle se tient pour responsable de l'infirmité de son petit garçon. Mais je crois que c'est le cas de toute mère qui accouche d'un enfant dans des conditions difficiles pour lui.
Oui,
pour lui, et pour elle bien sûr, mais pour lui, je veux dire, avec des conséquences assez redoutables. Donc oui, culpabilité qu'elle va balader toute sa vie et qu'elle va tenter de corriger par tous les moyens, notamment en redoublant d'attention vis-à-vis de son fils.
Oui. Oh, c'est un petit garçon lumineux.
Oui, j'aime bien le mot. Merci, Mona. Oui, il est lumineux. Il est lumineux parce que c'est peut-être lui qui aide le plus et au mieux sa mère à se débarrasser de la culpabilité qui l'encombre.
Mmh. Ouais. Et heureusement, il va savoir, il va se mettre à dessiner. Vous racontez la petite anecdote qui fait qu'il va se mettre à dessiner.
Oui. Sa mère ne peut pas supporter, on vient de le dire, de ne pas savoir ce qu'est devenu son mari. Bon, disparu au front, oui, disparu parmi des centaines, des milliers d'autres disparus dont on ne retrouvera jamais rien. Et elle a décidé de l'honorer d'une manière simple, la plus simple qui soit. Elle va, chaque dimanche, avec son petit garçon, déposer des fleurs sur des tombes anonymes. Sur des tombes, pas forcément de soldats, mais des tombes anonymes dans les cimetières de Nancy. Et un jour, elle se fait prendre parce qu'elle n'a pas de jardin. Elle est femme de chambre au grand hôtel de la place Stanislas, l'hôtel de la Reine. Donc elle n'a rien, elle n'a pas un rond, quoi. Elle vit dans une chambre de domestique au dernier étage avec son gamin. Et elle vole les fleurs qu'elle va déposer sur les tombes. Elle les vole notamment à la pépinière et dans quelques parcs privés, quoi. Puis un jour, elle se fait prendre à la pépinière. Et le gardien leur dit, bon, écoutez, là ça commence à bien faire, hein. Ça va vous coûter cher. Puis voyant qu'elle est en détresse, il dit, bon, c'est un avertissement, hein, mais n'y revenez plus. Et le gamin qui est à côté d'elle entend tout ça. Il se dit, bon, maman qui est dans la situation qu'on connaît, maman qui souffre tous les jours, maman, en plus elle se fait engueuler par un flic. Mais bon, on n'ira plus chercher des fleurs, mais je vais les dessiner. Et on ira porter sur les tombes des fleurs que j'aurai dessinées. Voilà. Voilà comment naît sa vocation.
Voilà, c'est ça. Il ne va pas seulement se contenter de dessiner les fleurs, il va aussi... Ses dessins attirent l'œil de Victor Lemoine quand il y a une exposition.
Oui, parce que là surgit un personnage qui est le comptable de l'hôtel, du grand hôtel de la Reine.
François de Reine.
Oui, qui est l'un des cadres de cet hôtel dans lequel notre Flavie est femme de chambre. Elle est en détresse, mais il n'empêche que c'est une femme jeune et pleine de qualités, pleine de plein, qu'on ne lui connaît que des qualités. Donc il l'a déjà remarqué. Et un jour, il surprend le gamin en train de dessiner. Alors simplement, quoi, le gamin pique des pages dans le carnet de compte de sa mère. Et il a piqué son crayon à maquillage parce qu'elle se maquille un peu. Et puis il dessine avec ça. Et ce gars, ce cadre de l'hôtel, dit mais bon, il a un vrai talent ce gamin. Quoi. Il sait tenir un crayon. Et il décide de lui offrir une boîte d'aquarelles et des pinceaux. Et voilà. Voilà la révélation. Notre petit Louis va se passionner pour l'aquarelle et il va devenir un artiste en herbe. Mais qui va être remarqué parce qu'un jour, ce cadre de l'hôtel décide d'exposer les dessins et les aquarelles de notre artiste en naissant dans les salons de l'hôtel de la Reine Plastane. Qui est fréquenté par les beaux artistes de l'école de Nancy, notamment Victor Lemoine, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est beau ça, ces fleurs à l'aquarelle. » Lui qui est horticulteur est sensible à ça. Il propose à sa mère d'engager notre petit Louis, d'abord pour l'aider à sortir de son handicap. Hein. Il va l'engager à venir travailler pour lui dans les serres, bon, il répliquera des choses... Mais surtout, il va faire de lui l'illustrateur de ses catalogues. Voilà comment notre petit Louis va entrer dans, lui aussi à son tour dans la belle aventure de l'horticulture lorraine à sa place, en tant qu'illustrateur. Mais aussi, il va apprendre avec Victor Lemoine et avec tous les horticulteurs qui bossent avec Lemoine, il va apprendre lui aussi à ce que sont les plantes, comment on les reproduit, il va apprendre l'hybridation des plantes, il va se passionner aussi pour ce monde de la nature.
Alors, on parlait de François de Rennes, le cadre de l'intendant de l'hôtel de la Reine. C'est un homme intègre, le type même du sauveur de la veuve et l'orphelin. Il a beaucoup de courage, quand même, cet homme.
Bah, c'est un homme.
Oui, un vrai, oui. Ouais. Un homme bien, ce qu'on appelle un homme bien.
H majuscule, oui. Un type bien. Oui. Un type bien honnête, droit, fidèle, qui n'a qu'une parole.
Oui.
Et qui décide.
Qui n'hésite pas à mettre son travail en jeu, dans la mesure où il défend Flavie.
Il va mettre son poste en danger le jour où il va prendre la défense de Flavie qui a été agressée par un client. Oui. Le harcèlement sexuel, c'est vieux comme le monde et ça malheureusement, ça dure, mais c'était pratiqué dans cet hôtel de Nancy. Et un jour, elle s'est fait agresser dans un couloir, dans la chambre du client, par le client. Elle réagit, elle va se réfugier dans le bureau de cet homme qui lui dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il réfléchit et alors que le patron a décidé de la mettre à la porte parce qu'il estime que c'est elle qui a provoqué le client, c'est elle qui l'a allumé pour obtenir de l'argent de lui.
Bien sûr. Hein? Normal.
C'est toujours
toutes les femmes sont vénales, on le sait.
C'est toujours de la faute de la femme, bien sûr. Donc il va aller voir son patron pour lui dire écoutez, si vous la mettez dehors, moi je pars avec. Ah ouais. Le patron va la garder. Pour garder son comptable. Voilà. Donc oui, il va se mettre en danger pour sauver une femme et son fils.
Oui. Et en même temps, je veux dire, il est courageux parce que lui, il est amoureux de Flavie, mais il a bien conscience que Flavie est toujours amoureuse d'Hippolyte parce qu'elle a vécu une histoire idyllique et ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Donc il n'y a pas eu l'usure de la relation du quotidien.
Oui, bien sûr. Et elle est encore dans l'envolée de l'amour du moment où elle a connu ce garçon qui est devenu le père de son enfant orphelin. Donc oui, elle est encore dans cette envolée amoureuse. Elle n'en est pas sortie, elle n'en sortira jamais.
Non, c'est sûr.
Jamais. Oui. Elle sera toujours amoureuse de son mari disparu. Et notre comptable, Honoré, aura bien conscience, toute sa vie lui aussi, d'être un second dans la vie de Flavie.
Et oui, c'est ça. Mais bon, il fait son devoir. Mais il est très amoureux quand même.
Il le fera jusqu'au bout.
Oui.
Il est très amoureux et puis il a cette rigueur intellectuelle et affective qui fait de lui un type absolument exemplaire.
Oui, oui. Puis en plus, il adore le gamin.
Ah oui.
Hein, c'est ça. C'est...
Il devient un vrai père de substitution,
oui, oui.
Même s'il ne veut pas se faire passer pour le père, tout court.
Non, bien sûr.
Chacun sait, aussi bien le garçon que lui, que évidemment Flavie, qu'il n'est qu'un père de substitution.
Mm-hmm. Mais un bon beau-père. Hein,
mais attention. Oui. Deux qualités, si tout c'était comme ça, ce serait merveilleux.
Oui, oui. Ouais. Et donc voici petit Louis qui va à l'exposition universelle à Paris, ouais. Avec Victor Lemoine.
Ouais.
C'est quand même merveilleux pour un petit garçon. Rien ne le prédisposait à vivre cette grande aventure.
Ben non, rien, si ce n'est que sa mère a une sœur qui habite à Paris, qui a épousé un militaire, qui, en tant que militaire, bon, il a un poste d'officier employé aux Invalides. Il loge aux Invalides et un jour, elle propose, cette femme de militaire, propose à sa sœur nancéenne, femme de chambre à l'hôtel, de venir faire un tour à Paris. Elle y va. Et deuxième invitation, ce sera pour notre jeune garçon, petit Louis, qui va aller, lui, passer quelques jours à Paris au moment de la fameuse foire exposition universelle à laquelle participent la belle aventure, les aventuriers de l'école d'horticulture de Lorraine,
oui.
Avec les artistes de l'école de Nancy.
Voilà, c'est ça. Alors donc, non seulement il va revoir Victor Lemoine,
ouais.
Et il va faire connaissance de tous ces artistes.
Bah, il va être l'invité de Victor Lemoine, voilà. Et Victor Lemoine va le présenter à tous ces beaux artistes, mm-hmm. dont Émile Friant.
Oui.
Notre superbe peintre lorrain, dont Émile Friant, et il va dans leur giron avec eux. Émile Friant va le guider dans le fameux pavillon des peintres français de l'exposition universelle de 89, lui faire découvrir des œuvres magnifiques. Et notre Victor va prendre quelques heures de liberté pour aller visiter le pavillon du colonialisme. Et quand il va arriver là et quand il va voir. Il va être bouleversé par ce qu'il va voir. Il va voir tous ces Africains, tous ces Indonésiens qui sont rassemblés là et présentés comme des bêtes sauvages, présentés comme des fauves dans des cages, avec des écriteaux fixés aux clôtures, interdiction de nourrir les...
Non mais... Il est
complètement retourné, révolté,
oui, bien sûr.
Par ce qu'il voit là. Et ça fait partie, ça, de ce qu'ont vécu les contemporains de cette époque-là, hein, ça a provoqué des réactions. Évidemment, la plupart des visiteurs du tout Paris sont venus et puis ont eu tendance à jeter des bananes ou du pain, mais il y a eu des mouvements de révolte.
Oui.
Et notre petit Louis les incarne. Je tiens toujours à ce que mes personnages soient très, très insérés dans la vie sociale, politique, morale du moment.
Alors vous faites dire à Victor Lemoine, l'homme est ainsi fait qu'il désire toujours dominer et soumettre. Maladie originelle. La nature a fort à faire de la remettre toujours à sa juste place. De le remettre à sa juste place. C'est elle qui est dans le vrai, le juste, le beau et le bon. Notre modèle. Prenons garde à ne pas la massacrer. Alors Gilles, vous êtes un homme amoureux de votre terroir et de la terre en général. Ça doit vous désespérer de voir comment l'on traite la nature maintenant.
Désespérer est un mot très faible. Ça me ruine de voir comment est traitée la planète et comment sont exploités à des fins politiciennes les problèmes qui se posent aujourd'hui.
Oui.
Les problèmes sont réels, on est en train de saloper la planète, n'ayons pas peur des mots, hein, de toutes les manières possibles et imaginables, mais on ne se bat pas contre le salopage de la planète, on se bat contre l'évolution climatique. Mais qui nous dit qu'on est responsable de l'évolution climatique ?
Bien sûr.
La planète, elle a sa vie propre. Elle a ses cycles. En revanche, on devrait se battre contre tous ceux qui sèment des cochonneries, tous ceux qui la salopent, il n'y a pas d'autre mot, au quotidien. Mais là, ça suppose se battre contre les industriels, ça suppose se battre contre les grands partis, ça suppose se battre contre... C'est autre chose. Inviter les gens à être plus éco-responsables, pour employer un terme à la mode, et ramasser leurs déchets ou faire moins de déchets. C'est autre chose que de tenir des grandes réunions sur l'évolution climatique.
Oui, bien sûr.
Hein? Là, au moins, on a un pouvoir sur la limitation et le ramassage des déchets, l'élimination des cochonneries qu'on libère tous les jours. Là, on a un pouvoir, ils ont un pouvoir, nos responsables politiques. Ils ne l'utilisent pas. pour favoriser l'économie, le commerce, favoriser tout ce qui permet d'engranger du fric. On n'a jamais connu autant de milliardaires qu'aujourd'hui.
C'est vrai.
Hein, on a passé le... Tiens, on a acquis le 10e milliardaire de France la semaine dernière.
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça.
Le 10e, voilà. Mais derrière les milliardaires, il y a tous les déchets là, qu'on vient d'évoquer.
Bien sûr.
Hein, parce que c'est ce commerce-là qui produit tout ça. Alors, qu'on nous mobilise sur une évolution planétaire qui, pour bien des aspects, à mon avis, ce n'est que mon avis, là, je vais me faire insulter, nous échappe surtout par des écolos militants
oui.
que je qualifierais de primaires. Là, oui, mais j'interviens souvent dans les écoles, lycées, collèges. Je rappelais l'autre jour à nos élèves que n'oublions pas que le Groenland, il y a 1000 ans, hein, c'est pas à l'époque secondaire, c'est récent, 900 ans. D'où son nom, c'était le Groenland, le pays vert, parce qu'il y avait des prairies avec des pâquerettes et des vaches qui paissaient. Aujourd'hui, c'est une calotte de glace. Donc, ne l'oublions pas ça, ne le perdons pas. Et nous avons à nous adapter, nous, à l'évolution de la planète.
C'est sûr.
Ça, c'est une évidence.
Mm-hmm.
Bon, voilà, c'était en aparté. On n'est plus tout à fait dans notre sujet.
Depuis Petit Louis.
De Petit Louis et Flavie. mais c'est, oui, ce livre m'est né de la volonté de saluer les miracles que produit tous les jours de la nature. Et derrière ça, il y a le comportement humain vis-à-vis de cette nature, bien sûr.
Mm-hmm. Oui, justement, il y avait une autre citation de Victor Lemoine que je voulais vous délivrer. Observer la vie d'une plante, c'est observer sa propre vie, car la vie est une. Manquer de respect à un végétal, un animal, un minéral même, c'est manquer de respect à la création dont l'humain n'est qu'une parcelle. Mais, et c'est souvent le problème, une parcelle persuadée qu'elle est le créateur lui-même. Par sa science, l'homme s'offre l'illusion d'être Dieu, mais il ne crée rien, tout existe sans lui, avant lui, existera après lui. Je ne suis qu'un compagnon de vie sur notre terre, qu'un médiateur. C'est un homme très modeste, Victor Lemoine.
Bah, il est surtout très connaisseur de la réalité de la vie, quelle que soit la vie.
Mm-hmm.
Hein, il l'observe tous les jours, il l'accompagne tous les jours, il la seconde tous les jours, parce que quand il procède à une hybridation de plantes, il n'invente rien. Simplement, il permet à ce qui offre à la vie de naître, de naître plus souvent.
Mm-hmm.
Mais il ne modifie pas l'ordre naturel des choses. Il apporte simplement l'appui de sa connaissance scientifique.
Mmh. Cependant, il y a une chose quand même, il dit que l'homme n'invente rien, il a pourtant créé, hélas, des armes de destruction massive quand même.
Voilà, il est champion là-dessus. Il est champion là-dessus. Il rate tout ce qu'il entreprend à propos de la protection de la nature, mais alors là, il réussit absolument tout ce qui lui permet de détruire la planète tout entière. Oui. Oui. Ça, c'est son grand talent.
Alors, nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter, une petite pépite que j'ai trouvée par hasard sur Internet en passant par chez nous, de Phil Williams.
Chez nous, c'est la pluie qui fait le beau temps et c'est les femmes qui font l'orage. Dans le pays où l'on règne, de la Moselle à la mer du Nord, elle a les seins massifs vosgiens et le ventre plat au Lorrain. Ma belle, elle a le nom de Lorraine et ses fils, un caractère de chien. Avec des Corses, des Alsaciennes et des Bretonnes. Et dans ces villes et ces campagnes, on peut pas dire que ce soit monotone. Elle parle plate quand ça l'arrange. Quant au patois, ce n'est pas toujours. Elle a les lèvres couleur brun belle. Elle a teinte des cheveux Mirabelle. En passant par la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos filles sont belles. Et que nos fils, dont sont les rois, qu'on reste à jamais insoumis. Le sourire en guise de chagrin, chez nous c'est le ciel qui pleure pour nous. Et oui mes mecs, on est Lorrains. Chez nous on connaît que deux saisons, l'hiver amer et le 15 août. L'été on descend voir la mer, monter en pneu neige sur les routes. On se reconnaît grâce à l'accent. Entre 57 et Vauchepatte, pas moins radin qu'un moine meusien. On gratte plus que les 54. Ailleurs, on devient vite malheureux. Passer deux semaines sans pluie, sans pâté dans les boulangeries. On supporte pas qu'il y ait trop de soleil. Ça c'est parce qu'on s'est resté simple. À trop grandir sous les nuages, notre gloire on la laisse en partage. À ceux qui caillent sous le moins 15, en passant par la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos fils sont belles, et que nos fils dont sont les rois, qu'on reste à jamais insoumis. Le sourire en guise de chagrin, chez nous c'est le ciel qui pleure pour nous. Et oui mes mecs, on est Lorrains. Ici on connaissait les mines, les filatures et le cristal. Tous passés à la trappe pépère, demande ArcelorMittal. Les grandes gueules dans les hauts fers jusqu'aux jonquilles du printemps. On mangeait tant de la faïencerie, la quiche que tu ne sauras jamais faire. Et toi tu me parles du Père Noël, bah, je te cite Saint-Nicolas. Quand l'un de chez nous sauvait des mômes, l'autre faisait le tapin pour Coca. L'époque bénie du pain d'épices, des bergamotes et des madeleines, du canal de la Marne au Rhin. Au rive du lac de Gérard May, en passant par la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos fils sont belles, et que nos fils dont sont les rois, qu'on reste à jamais insoumis. Le sourire en guise de chagrin, chez nous c'est le ciel qui pleure pour nous. Et oui mes mecs, on est Lorrains. À toi devant ta tour Eiffel, dis-toi toujours qu'elle est Lorraine, et que la statue de la liberté aurait le visage d'une fille de chez nous. Que si les tempêtes viennent de l'ouest, les invasions venaient de l'est, et Jeanne d'Arc à la résistance, on n'a jamais plié le genou. Et que même si parfois on se caresse entre nos stades dans CMS, peu importe la division, on reste dans la partition. Car quand passera un jour l'histoire de cette terre qu'on a tous connue, il nous restera sa mémoire. Et de Stanislas qu'il a vendu, en passant par la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos fils sont belles, et que nos fils dont sont les rois, qu'on reste à jamais insoumis. Le sourire en guise de chagrin, chez nous c'est le ciel qui chante pour nous. Et oui mes mecs, il est Lorrain.
Les plumes sur RCN, Mona.
Avant de redonner la parole à Gilles Laporte, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle « Le Duomo de Florence », aidé par Gilles.
Est-ce que je peux dire un mot à propos de ce qu'on vient d'entendre ? Il y a une phrase que je retiens là, de Jeanne d'Arc à la Résistance, « On n'a jamais plié le genou ».
C'est vrai.
Voilà. Merci à cet artiste que je ne connaissais pas. Pardon de vous avoir interrompu.
Pas de problème. Gilles ? Non, Gilles. John, à toi.
Le Duomo de Florence. Il suffit. Non, cet affront ne peut plus durer. Les dirigeants des villes voisines se moquent de nous. Nous sommes la risée de Sienne et de Pise. Le prélat de cette dernière m'a encore décoché une raillerie lors du conclave de cet été en Toscane.
Ah, cher Luigi, connaissez-vous le célèbre escargot de Florence? Celui qui monte, mais qui ne monte pas bien vite. Et surtout pas bien au chaud, car il n'a toujours pas sa petite coquille.
J'ai tout de suite saisi l'allusion perfide à notre chère cathédrale Santa Maria del Fiore, que nous n'avons pas réussi à coiffer ni à finir, malgré nos efforts depuis plus de 100 ans. 100 ans. Maître Arnolfo di Cambio, ce n'est pas rien. Sommes-nous incapables à ce point, nous autres Florentins, de ne pouvoir achever cette œuvre que nos aïeuls nous ont léguée? Avons-nous vu trop grand pour ne pas réussir à couvrir cette énorme bâtisse par le dôme qui l'achèverait enfin?
Monseigneur, pour notre défense, je dirais que les simples travaux de notre majestueuse cathédrale ont bien avancé et que j'ai déjà construit, suivant vos ordres, le tambour octogonal qui devra tout soutenir.
Oh.
Je l'ai percé de 8 ouvertures rondes visant à surélever encore l'ensemble. Tout cela afin de porter le poids énorme de la coupole sans être soutenu par le moindre arc-boutant. Mais pour doter notre cathédrale d'un dôme, j'avoue que je m'en déclare incapable, tout comme les autres architectes qui s'y sont essayés et ont présenté des projets farfelus et irréalisables jusqu'ici, car personne ne sait comment édifier la coupole sans avoir recours à des cintres en bois qu'on ne peut utiliser ici. Monseigneur, ne pourrait-on diminuer la taille de la coupole en faisant...
Vous n'êtes tous que des incapables. Des incapables. Nous, Luigi del Pietro Médicis, désirons avant tout que ce bâtiment soit imposant et même immense. Il doit illuminer de sa grandeur les cieux de Toscane. Notre Seigneur Jésus, louange lui soit rendue, mérite cette grandeur, cette hauteur, cette magnificence pour l'honorer. Et nous autres, les notables et princes de cette bonne ville de Florence, désirons lui rendre hommage. Oui, si le projet du dôme n'a cessé de prendre de l'ampleur, eh bien, la taille de la coupole qui doit le coiffer ne peut cesser elle aussi de croître, même si elle doit aboutir à un diamètre de 42 mètres de long.
Mais monseigneur, et puis je...
Des incapables, voilà par qui je suis entouré, des incapables.
Monseigneur, puis je vous suggérer...
Quoi encore?
Monseigneur, pourquoi ne pas tenter de refaire un nouveau concours? Un concours comme celui-là imaginé par l'ancienne municipalité de Florence pour l'installation des 28 grandes portes nord du baptistère et qui avait permis de récolter tant de satisfaction avec l'architecte Lorenzo Ghiberti en l'an 1401.
Oui, je dois dire, maître Arnolfo Di Cambio, que votre idée me semble intéressante. Enfin, une idée intéressante que j'avais déjà eue par ailleurs, juste avant notre entretien. Eh bien, je vais m'en emparer et la proposer au prochain conseil.
Oh, monseigneur, c'est trop d'honneur. Je pourrais...
Oui, vous pourrez. Vous pouvez disposer, maître Arnolfo. Allez, disposez.
Monseigneur.
Quelque temps ont passé depuis cette entrevue et si les propositions d'architectes venues du pays tout entier ont régulièrement afflué, la plupart des projets reçus utilisent des cintres comme support à la coupole, ce qui est rédhibitoire. Seul, l'architecte et orfèvre joaillier Filippo Brunelleschi apporte une proposition totalement nouvelle, faisant appel à une structure autoportante appuyée sur les parois du dôme en cours de construction. Cette technique présentant de surcroît un grand avantage financier puisqu'elle est très économe en bois. Les jours et les semaines se sont écoulés et nous sommes à présent au début de l'an 1420. Les deux projets les plus intéressants sont ceux de Filippo Brunelleschi et de Lorenzo Ghiberti. Ces deux derniers étant déjà rivaux tous deux quelques années auparavant sur le concours des 28 portes où Ghiberti l'avait emporté, en soudoyant la commission, disait-on. Aussi, une forte animosité s'était-elle créée entre eux à cette occasion. Tout oppose d'ailleurs ces deux hommes. Autant Ghiberti est grand, blond, avec des yeux bleus, beau parleur, charismatique, rompu au complot d'affaires, issu de la grande noblesse, autant Brunelleschi est petit, brun, secret, peu loquace. Sa peau basanée, trahissant ses origines modestes d'enfant pauvre du sud de l'Italie, fait qu'il n'arrive que difficilement à s'intégrer à la société florentine. Mais il est ingénieux en diable, créatif et passionné de recherches techniques. Aussi finit-il par convaincre, grâce à ses qualités naturelles. Pour les départager, une épreuve leur est imposée. Proposer des techniques permettant d'élever les matériaux de construction à une hauteur proche de 50 mètres. La hauteur du dôme imposant de trouver de nouvelles solutions. En effet, Si la cage à écureuil, longtemps en œuvre sur les chantiers médiévaux, pouvait suffire jusqu'à aujourd'hui, cette fois-ci, impossible de s'en tenir à cette méthode. Brunelleschi invente alors un palan, actionné par des bœufs, en utilisant une corde presque de 200 mètres de long. Un système complexe de poulies et d'engrenages, permettant de faire monter et descendre les charges sans que les bœufs ne changent leur sens de rotation. Et il imagine aussi une grue qui déplace les matériaux de façon latérale, une fois qu'ils sont montés sur le chantier. Messieurs les architectes, monsieur Monseigneur Luigi, notre commission de la ville de Florence va vous révéler en ce 15 janvier 1420 le nom de l'heureux gagnant de ce concours, qui n'est autre que le maître Filippo Brunelleschi. Qu'il soit acclamé et que Dieu et son Fils unique Jésus-Christ puissent l'aider à accomplir enfin l'achèvement de notre belle cathédrale Santa Maria dei Fiori que nous nommerons le Duomo. Sous un tonnerre d'applaudissements, celui-ci, rayonnant d'avance, s'avance pour recevoir le parchemin, attestant qu'il est devenu le grand maître d'œuvre du projet. Mais une mauvaise surprise l'attend. Ah, nous acclamons donc tous le grand architecte maître Filippo Brunelleschi, qui sans conteste va réussir à coiffer le toit de notre cathédrale d'un dôme prestigieux qui rendra Florence encore plus belle. Et pour l'aider dans sa tâche immense et périlleuse, dans sa grande bonté et clairvoyance, Monseigneur Luigi lui a adjoint une aide précieuse. Il s'agit de mettre le Lorenzo Ghibelti, qui devient le co-directeur du projet. Qu'on l'acclame lui aussi. À cette annonce, le sourire éclatant de Brunelleschi se transforme peu à peu en un rictus de dégoût, qui en dit long sur la cordialité régnante entre les deux hommes. Celui-ci prend la parole. Monseigneur Luigi, messieurs de cette noble assemblée réunie pour m'élire, je suis flatté, très flatté d'avoir été choisi parmi les plus grandes instances de Florence et je vous en remercie. Puisqu'il le faut, nous travaillerons donc de concert pour la grandeur de Florence. Les applaudissements reprennent pendant que les deux futurs architectes, poussés par Monseigneur Luigi, se rapprochent l'un de l'autre, mais avec réticence. Un murmure d'incompréhension parcourt l'assemblée jusqu'à ce que Ghibelti s'avance le premier, la main tendue vers Brunelleschi, mais qui refuse de la lui serrer.
Comme vous voulez. Alors, mon cher Filippo, nous nous retrouverons cependant dès demain matin, ici même, pour voir vos mystérieux plans de la coupole qui vous ont fait élire comme maître d'œuvre. Je suis curieux d'ailleurs de voir ce qui a pu faire la différence avec moi. Ah, une dernière chose, soyez ponctuel, car je ne souffre pas le retard et de personne.
Mon cher Lorenzo, laissez-moi ajouter, est-ce bien nécessaire d'avoir un aigle à deux têtes pour construire un nid ou un dôme? Moi, pauvre mortel, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je réserve à Dieu et à la cathédrale Santa Maria dei Fiori la connaissance de mes plans de construction et pas à un être humain. À demain, donc. Dans cette ambiance pour le moins électrique tout au long du chantier du dôme, la mésentente entre les deux hommes ne cessa de croître. D'autres difficultés intervinrent aussi car des fissures apparurent dans les murs et durent être renforcées avec des barres de fer.
« des incapables !» enragea encore une fois Monseigneur Luigi lorsqu'il l'apprit le jour même de la bouche de Ghibelti.
La faute en revient peut-être à cet architecte sans talent à qui vous avez fait confiance, Monseigneur. Ses calculs ne tenaient probablement pas assez compte du poids de la coupole que notre Seigneur Jésus-Christ mérite. Trois fois son nom soit béni, ainsi que vous, Monseigneur. lui dit ça insidieusement Lorenzo Ghiberti.
Peut-être, peut-être, mais... Mais il a déjà réussi ce que personne, y compris vous, n'avait jamais atteint, mon cher, à savoir que le dôme progresse. Il progresse au rythme moyen de 30 cm par mois, et ça depuis plus de 10 ans. Ah, trouvez un moyen, tous les deux, pour que ça tienne, bande d'incapables. Allez, disparaissez de ma vue, je suis fatigué de toutes vos chamailleries. Inlassablement, l'équipe de construction réussit, centimètre par centimètre, année après année, à édifier cette partie, couvrant le transept du Duomo de Florence. Mais Brunelleschi, toujours inquiet de se faire voler de ses idées, ne se résolut pas à montrer ses plans à son rival. Cultivant le secret, il refusa de dévoiler les détails du dispositif qu'il mettait en œuvre pour la construction du dôme. Un soir, cependant, où il avait laissé ses plans sur la table de calcul au pied de la fameuse Duomo, quelle ne fut pas sa surprise d'apercevoir du haut du transept son rival qui s'approchait ostensiblement de la table pour les lui dérober ou les consulter. Le élan depuis là où il se trouvait, Filippo lui glissa. « Ah, cher ami, qu'il est doux d'avoir un collaborateur tel que vous, qui vient pallier à mes oublis et qui est toujours très attentif à nos efforts mutuels de construction de notre chef-d'œuvre. Attendez-moi, cher ami, attendez-moi, je vous rejoins. Ne vous inquiétez pas, hein, je garde un œil sur vous. Des fois qu'une pierre n'en vienne à se détacher d'en haut et vous fracasser la tête si vous approcherez trop près de cette table. » Comprenant la menace, dès lors, Lorenzo Ghiberti ne tenta plus de s'approprier les plans lui-même, mais fit envoyer des comparses qui tentèrent eux aussi de les copier, mais sans succès. Malgré tout, peu à peu, le Duomo s'éleva, resplendissant dans le ciel de Toscane. Et depuis que 16 ans que duraient les travaux de la coupole, la ville de Florence, tout entière, vivait au rythme de ce chantier colossal et dans l'attente de son achèvement. Aussi, lorsque le 25 mars 1436, jour de l'Annonciation, le pape Eugène IV consacra la cathédrale, enfin terminée, des fêtes gigantesques eurent lieu dans toute la ville et le vin coula à flot. Le soir même, à moitié ivre, Brunelleschi grimpa les 463 marches, lui permettant d'atteindre le haut du dôme. Les plans originaux de la construction, soigneusement rangés dans sa besace. Dans sa main gauche, il tenait une torche allumée. Arrivé en haut du transept, il sortit alors ses précieux papiers et y mit le feu, un à un. Ceux-ci rejoignirent le sol, tournoyant dans le vide, comme des oiseaux de feu dans la nuit glacée de Florence. Et jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé ces plans du fameux Duomo, ceux de la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui attire pourtant presque 1 million de visiteurs par an, et personne, non, personne, à ce jour dans le monde, n'a jamais su construire un dôme aussi haut et aussi beau que celui qu'a construit le maître charpentier, Filippo Brunelleschi.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Gilles Laporte, venu nous présenter son roman Une fleur au cœur d'or, publié aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Alors Gilles, vous êtes un auteur prolifique parce que vous avez également publié en 2023 « La lame et la soie » aux éditions Kairos et « Pour l'amour de la Lorraine » aux éditions Magellan. Alors « La lame et la soie » est un roman pastoral qui se passe également en Lorraine. Vous venez nous en dire quelques mots de Marie-Ange et de Pierrot ?
Et vous l'avez dit, je travaille beaucoup, j'écris tous les jours et j'ai éprouvé le besoin de changer un peu d'air. Le roman historique, c'est l'essentiel de mon travail, mais j'ai eu envie de, dans un roman court, très poétique, un peu en apesanteur, je ne donne aucune indication concernant l'époque,
Bien sûr.
Il n'y a pas de date, ni concernant les lieux, mis à part quelques lieux dits qui sont cités et que quelques initiés pourront éventuellement reconnaître. Il n'y a pas d'indication, ni temporelle, ni géographique. Donc, j'ai voulu, de cette manière, oui, en apesanteur, inviter mes lectrices et lecteurs à se tourner vers ce que je considère comme étant l'essentiel. C'est-à-dire ce qui rapproche deux êtres, ce qui leur permet d'être en communion presque parfaite jusqu'à un dénouement dont je ne dirai rien, bien sûr.
Bien sûr, et qui explique le titre.
Mais j'ai bien aimé l'adjectif pastoral, parce que ce roman très très poétique se passe dans un milieu qui est le milieu simple des paysans d'autrefois, d'aujourd'hui, de demain peut-être. Ce milieu dans lequel on connaît le sens du mot valeur, ce milieu dans lequel on connaît aussi le sens du mot travail et le sens de l'autre mot qui, pour moi, est essentiel, le mot fidélité.
C'est vrai. Alors le second, Pour l'amour de la Lorraine, est une ode à votre région natale. C'est à la fois un documentaire et un témoignage de votre tendresse pour ce pays.
Mais j'aime bien vos résumés là. Documentaire et un élan de tendresse, oui, parce que c'est bien ça, oui. J'ai voulu, c'est une commande d'éditeur ce livre-là, et lorsque cette commande m'est arrivée, je me suis dit pourquoi pas dire tout ce que j'aime. Je ne parle pas de toute la Lorraine.
Non.
C'est pas une sorte de guide de voyage, c'est pas non plus une invitation à un itinéraire de découverte artistique, scientifique, non. C'est mes coups de cœur successifs pour la Lorraine.
Mmh.
Alors, dans chaque département lorrain, bien sûr, il y a des choses que j'aime. Il y a aussi, dans chaque département lorrain, des choses qui me plaisent moins, et notamment, il y a des aspects contemporains du traitement de l'histoire qui ont provoqué dans ce livre quelques coups de gueule.
Mm-hmm.
Par exemple.
Par exemple.
Parce que pour moi, cette Lorraine est tellement... j'y suis tellement viscéralement attaché. J'y suis né, j'y ai toujours vécu et j'y mourrai. Peut-être pas demain, j'espère, mais enfin, j'y mourrai. Et je suis quelque chose d'elle. Je suis issu d'elle, je suis issu de ce sol qui m'a fait naître, je suis issu de ce ciel qui me nourrit en permanence, et je m'efforce en tant qu'être humain d'honorer ces deux racines-là qui sont la terre et le ciel, en faisant en sorte que cette trilogie sacrée, terre, ciel, homme, deviennent ce que nous pourrions appeler, en mettant un T majuscule, le terroir.
Mm-hmm.
Et non pas le goût du master, la saveur d'un pinard, c'est ça, oui, peut-être aussi. Mm-hmm. Mais le terroir, c'est avant tout un sol,
oui.
Un ciel, mm-hmm. Un climat, une lumière, et un être qui les vit.
Bien sûr. Alors, quelle est la construction humaine qui vous émeut le plus dans cette Lorraine ?
La construction humaine qui m'émeut le plus. Ah là, vous me posez une colle. Hein. C'est probablement qui est une anomalie géologique, en même temps qu'une construction humaine, c'est la colline de Sion.
Mmh.
La colline de Sion-Vaudémont, qui est l'éperon sacré de Lorraine, qui est ce lieu qui, à lui seul, rassemble toute l'histoire de notre pays, depuis les Celtes qui vénéraient la déesse Rosmerta, les Romains qui honoraient Mercure, l'Église ensuite, les chrétiens qui ont honoré là Marie.
Mmh.
Le duc Charles IV a fait de la Vierge de Sion la protectrice de ces peuples de Lorraine.
Mm-hmm.
On était au début du XVIIe siècle.
Oui.
Elle veille toujours sur les peuples de Lorraine. Et puis, cette colline de Sion est devenue une sorte de témoin de ce que nous pourrions aussi être dans l'avenir, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de cette, ce sens de la Trinité sacrée dont je parlais tout à l'heure du terroir. Elle est ce lieu où se concentrent nos beaux mirabelliers qui produisent ces fruits d'or. Elle est ce lieu qui recèle dans son sous-sol du pétrole. On l'a tous oublié. L'aventure du professeur Maubeuge qui a montré qu'il y avait du pétrole et qu'on pourrait peut-être l'exploiter de manière respectueuse de l'environnement. Il l'avait réussi, lui. Donc, voilà ce qu'est pour moi cette colline de Sion, qui est à la fois, comme je l'ai dit, une sorte d'accident géologique, oui, parce que c'est un des éléments, c'est une côte témoin des côtes de Moselle, mais elle est aussi une construction humaine, au moins par l'esprit. Pour moi, c'est essentiel.
Et ce qui est amusant, ce que j'aime bien dans cette colline de Sion, c'est que malgré les visiteurs, elle a gardé sa sérénité et sa discrétion, je dirais.
Un peu troublée maintenant, parce qu'elle a perdu beaucoup de son âme depuis qu'elle n'est plus habitée par la communauté des Oblats de Marie Immaculée qui vivait au couvent. J'ai eu le privilège, lorsque je démarrais en écriture dans les années 1975-80, d'être très ami avec le supérieur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui s'appelait Michel Berche, qui, comme tous les Oblats, avait voyagé dans le monde entier. Bon, c'est une communauté de missionnaires, donc il avait voyagé dans le monde entier. Et je lui ai passé un coup de téléphone pour lui dire « Bon, je peux, la semaine prochaine, j'ai réussi à me libérer, est-ce que je peux venir écrire ?» Tu viens quand tu veux, tu le sais. J'avais ma cellule réservée là dans le couvent, qui ouvrait sur le jardin, sur la cour intérieure et le jardin. Et j'y partageais la vie des pères et des frères là-haut. C'était des moments privilégiés de vie authentique, simple. Je faisais la vaisselle avec eux après le repas, mais on prenait le repas dans le silence, hein, bien sûr. Et puis, on avait cette habitude. C'était lui qui avait posé cette condition. Il me dit, bon, tu viens, mais rappelle-toi, tous les soirs à 6 heures. Tous les soirs à 6 heures, je quittais ma cellule. Je montais l'escalier qui menait à son bureau, je toquais à sa porte, entrais, il ouvrait la porte, sur la table basse, entre les deux fauteuils de cuir qui étaient là, il y avait le paquet de cigarettes et la bouteille de whisky. Et on passait une heure, tous les deux, à refaire le monde. Lui à m'expliquer ce qu'était le monde, parce qu'il le connaissait, lui, de long en large et en travers. Hein. Il avait visité l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, il m'en parlait. Et nous partions de cette connaissance qu'il avait du monde en sa qualité de missionnaire oblat pour tenter de le mieux comprendre et faire en sorte qu'il soit un peu meilleur. Et quand on se quittait, on se disait à chaque fois, ça va mieux. Hein. Après avoir bu du whisky et fumé des gauloises.
Moi, je connais la colline de Sion, mais de manière plus pragmatique, en vélo, puisque je suis cycliste. Et c'était une sacrée montée.
Elle a perdu de son sacré depuis que les Oblats ont disparu. Bon, heureusement, il y a encore une communauté de Clarisse qui vit et qui prie tous les jours, là-bas, secrètement, dans ce lieu magique. Et elles maintiennent à elles seules une sorte de vie spirituelle permanente sur la Sainte Colline, et ça pour moi c'est très important.
Eh bien merci, c'est un bel hommage à la Lorraine. On sent de toute façon vous êtes amoureux de la Lorraine.
Bah oui, comme Honoré était amoureux de Flavie dans mon roman Une fleur au cœur d'or. Oui, amoureux depuis toujours et pour toujours de notre belle Lorraine, oui.
Merci Gilles, le temps passe vraiment trop vite. Alors merci à Gilles Laporte d'être venu nous présenter son roman.
C'est déjà fini?
Oui. Oui. Son roman Une fleur au quart d'heure, publié aux presses de la Cité dans la collection Terre de France.
Et préfacé par Alain Baraton.
Oui, ça j'ai oublié de le dire.
Je le précise.
Oui. On a un peu effleuré effectivement ces deux autres livres, La lame et la soie, un roman paru aux éditions Kairos, et Pour l'amour de la Lorraine, aux éditions Magellan.
Oui.
Merci à John Bulit, qui nous a fait la lecture du Duomo de Florence, avec la collaboration de Gilles Laporte. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Jean Ferrat et la paix sur terre. Au revoir à tous et à bientôt.
Que du bonheur.
Au revoir.
Merci.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatérale.